Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire, avril 2017. Édition de Jubilé. Agissant de la part de Dieu, depuis 55 ans. De tout cœur, je salue tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la parole d'Apocalypse 1, 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. L'apôtre Jean fut le serviteur, à qui la partie prophétique du plan du salut fut révélée. L'apôtre Paul fut le serviteur à qui, tout ce qui devait se passer pendant le temps de la grâce, jusqu'au retour de Christ, fut révélé. Paul pouvait écrire, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » 1 Timothée 1, 12. Je peux en dire autant. Ceci aussi demeure vrai, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. 1 Corinthiens 12, 28. Conformément à son plan du salut, le Seigneur Dieu a établi lui-même des ministères dans son Église. Dans notre temps, le ministère particulier de frère William Branham a été d'une grande importance dans l'histoire du salut pour l'Église universelle et également le ministère par lequel le dernier message précède directement la seconde venue de Christ. L'Éternel dit à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant. J'avais 29 ans. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie 1, 7, 12 et 19. Au souverain sacrificateur Josué, il lui a été dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Zacharie 3, 7. En vérité, Dieu a annoncé à ses prophètes, et à ses apôtres, ce qu'il avait prévu pour les siens depuis l'éternité, et il en est de même pour nous aussi dans ces derniers temps. La parole et le plan de Dieu n'ont jamais été révélés aussi clairement et intégralement comme dans notre temps. Dans plusieurs lettres circulaires, j'ai relaté des faits qui se sont produits durant toutes ces années et j'ai mentionné des expériences particulières qui sont en relation directe avec le ministère qui m'a été donné par le Seigneur lui-même, le 2 avril 1962. Étant donné que des frères dans le ministère me l'ont demandé, je mentionnerai encore une fois brièvement quelques circonstances personnelles. Comme vous le savez tous, je suis né en décembre 1933 dans la région de Dantzig, qui appartenait autrefois à la Prusse occidentale. Après avoir fui le front de la guerre avec mes parents et mes frères et sœurs, en janvier 1945, nous avons vécu en Allemagne du Nord, depuis mars 1945. À partir de 1947, je fréquentais des réunions d'évangélisation et des conférences chrétiennes internationales, principalement à Hambourg. En 1948, j'ai expérimenté ma conversion et le baptême d'eau, et en 1949, le baptême du Saint-Esprit, et j'ai consacré ma vie à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je continue à assister aux réunions dans l'église pentecôtiste Elim, sur la rue Bach, et dans l'église pentecôtiste libre qui était à la rue Eibutler, à Hambourg. Durant les années après la guerre, le Saint-Esprit agissait, surtout parmi les réfugiés. Les fusillants du Saint-Esprit se produisaient, au point même que toute l'assemblée loua le Seigneur en langue, harmonieusement, pendant la prière. En 1949, lors d'une conférence pentecôtiste, j'entendis parler pour la première fois de William Branham, par l'évangéliste américain, Al Herman, qui en 1945, en tant que reporter de l'armée, avait filmé les ruines d'Hiroshima après le bombardement atomique. Par la suite, dans son magazine Merlicht, Albert Götz fit également un rapport à son sujet et sur les événements extraordinaires qui se produisaient dans son ministère. Il publia aussi la version allemande du livre de Gordon Lindsay, intitulé « William Branham, un homme envoyé de Dieu ». Depuis janvier 1952, j'habitais à Krefeld. Il y avait ici une petite assemblée pentecôtiste libre dans laquelle j'avais été appelé pour prêcher. Suite à ce que j'avais lu dans le livre, William Branham, un homme envoyé de Dieu, naquit en moi le désir d'entendre cet homme personnellement. En août 1955, j'ai vécu les réunions bénies de frère Branham à Karlsruhe. Sa simplicité et son humilité m'ont profondément impressionné. Durant les réunions, nous avons vu le don de guérison, associé avec le don de prophétie, qui consiste à avoir en vision des choses que Dieu révélait instantanément de la vie des malades qui étaient dans la ligne de prière. Le même ministère de notre Seigneur qui est décrit dans les évangiles se réalisa devant nos yeux. En effet, devant nos yeux, des aveugles recouvraient la vue, des paralytiques étaient guéris, et des personnes gravement malades étaient rétablies. Le plein évangile de Jésus-Christ était prêché, et Dieu le confirmait par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Dès le premier jour, j'ai été convaincu que personne ne pouvait faire les œuvres qui se produisaient ici, si Dieu n'était pas avec lui, pour les accomplir. Ce furent des réunions comme au jour de la Bible, des jours comme au temps des apôtres, que j'ai vécu en août 1955 à Karlsruhe, en tant que témoin oculaire et auriculaire. J'avais connaissance des divergences d'enseignement, de foi et de baptême dans les églises. C'est pourquoi il était important pour moi de savoir ce que cet homme de Dieu croyait et enseignait, puisque Dieu confirmait vraiment la parole instantanément devant des milliers de personnes. C'est avec ce désir que je pris part à la grande conférence de Voice of Healing qui a été organisée par Gordon Lindsay, à Dallas, Texas, aux États-Unis, du 6 au 15 juin 1958. Durant les réunions du matin et de l'après-midi, des évangélistes mondialement connus prenaient la parole. Mais lors des réunions du soir, frère Branham était l'orateur principal. Ainsi, il m'a été possible de tirer une comparaison, et déjà les trois premiers jours m'ont suffi pour comprendre clairement que c'était l'authentification divine de son ministère qui différencia frère Branham de tous les autres évangélistes. Avant la réunion du soir du 12 juin 1958, à Dallas, j'ai cherché à lui parler et je lui dis, « Frère Branham, je vois la différence entre toi et tous les autres évangélistes. J'aimerais savoir ce que tu crois et ce que tu enseignes. » Sa réponse fut, « J'ai un message que je dois apporter. Va trouver Léo Mercier, tout à l'heure. C'est lui qui enregistre les prédications sur les bandes magnétiques. Demande-lui qu'il t'en donne quelques-unes. » À la fin de cette conversation, il dit, « Frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » Je vivais en ce temps-là au Canada depuis 2 ans et demi. Ce fut en cette occasion que j'entendis parler pour la première fois d'un message. À la fin de notre entretien, nous nous sommes étreints fraternellement. Le jour suivant, j'allais auprès du frère Mercier et il me donna 5 bandes magnétiques contenant des prédications. Je laissai mon adresse, et à partir de ce moment, je reçus chaque prédication prêchée par frère Branham. Nouvelle étape. Peu de temps après, je retournai vivre à Krefeld. Je repris mes fonctions de prédicateur que j'avais interrompues lors de mon émigration, en 1956. En octobre 1959, le directeur responsable de l'église pentecôtiste libre vint à Krefeld, et il nous mit en garde publiquement contre William Branham et son enseignement. Pour moi et pour quelques frères et sœurs, 14 personnes au total, le moment était arrivé de quitter l'assemblée. Depuis ce moment, nous nous réunîmes alors dans une maison, et c'est là que je traduisis la première prédication de frère Branham, en décembre 1959. Le Seigneur accorda sa grâce, si bien que bientôt nous dûmes louer une salle qui pouvait contenir 70 personnes. Peu de temps après, nous avons dû louer une salle qui comptait exactement 120 places. Et puis plus tard, nous avons loué une autre salle qui contenait 240 places, parce que toujours plus de frères et de sœurs d'autres villes se joignaient à nous. En avril 1974, nous avons pu inaugurer notre propre lieu de culte, comptant 750 places assises. Durant toutes ces années, nous avons traduit simultanément les prédications de frère Branham que je recevais régulièrement, directement à partir des bandes magnétiques dans nos réunions. C'est ainsi que nous avons joui d'une croissance spirituelle harmonieuse dans l'assemblée. Mes expériences vécues dans les réunions de frère Branham, que ce soit en 1955, en 1958 ou en 1962, ainsi que mes rencontres personnelles avec lui, vous sont déjà connues. Les 21 lettres que j'ai reçues de frère Branham entre le 11 novembre 1958 et le 30 septembre 1965 rendent témoignage de ma relation personnelle avec l'homme de Dieu. Ce fut le jour que le Seigneur a choisi. Sans appel, pas de mandat. Pas de mandat sans appel. Le dimanche 2 avril 2017, cela faisait exactement 55 ans depuis que le Seigneur fidèle m'a appelé, selon sa volonté et conformément à son plan du salut. Paul a témoigné de son appel trois fois, précisément dans Acte 9, Acte 22 et Acte 26. Frère Branham également a témoigné de son appel assez souvent. Ceux qui trouvèrent grâce devant Dieu, crurent. Les autres passèrent à côté de cela. La même chose se produit maintenant. L'apôtre Paul se présente de la manière suivante, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1, 1. L'apôtre Jacques aussi se présente comme un serviteur, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, 1. L'apôtre Pierre fit de même, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage. 2 Pierre 1, 1. Un fidèle serviteur exécute exactement toutes les instructions de son Seigneur, comme son Seigneur le lui ordonne. Dans plusieurs lettres circulaires, j'ai aussi relaté les autres différentes expériences, qui sont en relation directe avec le ministère dont le Rédempteur m'a chargé lui-même. Plusieurs fois, il m'a interpellé en disant « Mon serviteur », et je peux nommer, tous les lieux, où, et lorsque cela est arrivé. Pas une seule fois il a été question d'un rêve, mais à chaque fois, j'étais bien éveillé. Tout comme Paul, je peux attester devant Dieu et devant les hommes. Et il arriva. Acte 22, 6. Qui peut comprendre ce que cela signifie d'entendre la voix pénétrante du Seigneur, et quelle responsabilité, lorsqu'on reçoit directement ses instructions? Krefeld. Mon témoignage de l'expérience extraordinaire du 2 avril 1962 vous est connu depuis des années. Au lever du jour, j'entendis la voix puissante du Seigneur. Mon serviteur, le temps pour toi dans cette ville est bientôt fini. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Je répondis, bien-aimé Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Sa réponse fut, mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Emmagasiner de la nourriture et des aliments, car il arrive une grande famine. Alors tu te tiendras au milieu du peuple, et tu distribueras la nourriture. Et puis on suivit les détails que je devais respecter. Les deux dernières choses que le Seigneur m'ordonna, furent, mon serviteur, ne fonde pas d'église locale, et n'édite pas de recueil de cantiques, car ceci est un signe d'une dénomination. Je suis convaincu que les églises locales sont bibliques, mais ce n'est pas mon devoir de fonder des églises dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et si chez nous, comme dans toutes les assemblées, il y a d'usage de chanter des cantiques à partir d'un recueil, je n'ai pas le droit d'en éditer un, de moi-même. J'ai suivi avec exactitude ce que le Seigneur a dit. Marseille, France. Mon serviteur, lève-toi, et lis 2 Timothée chapitre 4, car je veux te parler. Le soir précédent, on m'avait posé la question, qu'est-ce que les sept tonnerres d'Apocalypse 10? Je n'avais pas su répondre. Le matin suivant, le Seigneur lui-même me donna la réponse par l'Écriture sainte. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Je posai alors ma Bible sur la table, levai mes mains, et dis, bien-aimé Seigneur, aussi certain que tu m'as ordonné de lire ce texte, de même il est certain que, ce que les sept tonnerres ont dit, n'a pas été écrit en tant que parole de Dieu. Par conséquent, on ne peut pas prêcher à ce propos. C'est ainsi dit le Seigneur. Les vrais serviteurs de Jésus-Christ ont été obligés par Dieu lui-même à ne prêcher que ce qui est écrit. Apocalypse 1, 1, 3, et ils ne doivent rien retrancher ni ajouter à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 20. Les sept tonnerres d'Apocalypse 10 retentiront seulement lorsque le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra et posera ses pieds sur la terre et sur la mer. Krefeld. La vision avec le champ de blé et la moissonneuse batteuse fut exceptionnelle. Cet événement était le sujet de beaucoup de médisances. Il y a de nombreuses années, un frère a même écrit une brochure à ce propos, qui portait le titre « L'acte de la moissonneuse batteuse. Dans cette brochure, je suis désigné comme l'antichrist, le séducteur, etc. Et je suis le sujet de beaucoup de moqueries. Je ne redonne, en présence de Dieu, que ce que j'ai vu et entendu. Je fus transporté en esprit près d'un très vaste champ de blé très mûr, et je vis les épis pleins, déjà jaunis par le soleil, qui se penchaient tous uniformément. Je sais que durant toute la période de la grâce, la parole a été semée telle que la semence, et que dans chaque âge de l'Église a eu lieu la moisson des âmes des vainqueurs. Cependant, l'Écriture parle aussi de ce qui arrivera tout à la fin, lorsque le blé sera rassemblé dans les greniers célestes. Matthieu 3, 12. Je remarquai qu'il n'y avait pas de mauvaise herbe sur toute l'étendue du champ de blé, et en esprit, je sus que l'ivraie avait déjà été arrachée, comme il est écrit, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe. Matthieu 13, 30. Alors je regardai à gauche et je vis une moissonneuse batteuse toute neuve. À cet instant même, le Seigneur parla d'une voix puissante, « Mon serviteur, la moissonneuse batteuse t'est destinée, car tu dois engranger la moisson. » J'y allai immédiatement et montai sur la moissonneuse. Mais le ciel devint très sombre, cela ressemblait à un combat qui se déroulait dans les nuages déchaînés. Et je dis, « Seigneur fidèle, il est trop tard. Je ne peux pas engranger la moisson, les jugements s'abattent sur la terre. » Au même instant, le soleil perça avec force entre les nuages, et brilla sur le champ de blé. Je me mis aussitôt à manœuvrer les leviers et commençai à moissonner. Alors que j'avais à peine terminé, le ciel s'obscurcit et aussitôt les craquements du tonnerre se firent entendre. Krefeld. Mon serviteur, annule le voyage en Inde. Je ne l'ai fait que lorsque le Seigneur me l'ordonna pour la deuxième fois. J'avais déjà retiré les billets à l'agence de voyage et je devais prendre le vol le vendredi, en octobre 1976. L'avion avec lequel je devais voyager, de Bombay à Madras, prit feu après le décollage et alla s'écraser, faisant périr les 96 passagers. Mon nom était sur la liste des passagers. Ceci a été confirmé par un appel téléphonique du ministère des Affaires étrangères. Cependant, ce n'était pas encore mon jour pour rentrer à la maison. Edmonton, Canada. Mon serviteur, je t'ai choisi, conformément à Matthieu 24, 45 à 47, pour distribuer la nourriture au temps convenable. Ceci fut pour moi la réponse venant de la bouche du Seigneur, après que, le jour précédent, le frère Bablitz m'avait posé la question, si mon ministère se trouvait aussi dans la Bible, comme celui de frère Branham. Jusqu'à ce moment-là, je ne le savais pas moi-même. Oh, quelle fidélité de Dieu! Amen. Le frère Branham m'avait dit, en effet, le 3 décembre 1962, frère Franck, attends avant de distribuer la nourriture, jusqu'à ce que tu reçoives le reste. Krefeld. Mon serviteur, quand l'action finale commencera, je parlerai de nouveau avec toi. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. À cette occasion, la ville de Zurich a aussi été mentionnée. Je persiste à croire que Dieu fera lui-même, à la fin, une œuvre brève et puissante, à laquelle nous aurons part, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. Krefeld. Mon serviteur, quand les frontières s'ouvriront, j'appellerai l'épouse des pays de l'Est. Dans la vision, je me trouvais sur l'estrade dans une grande salle de festin. Beaucoup de personnes entrèrent et prirent place. Puis je vis qu'il y avait encore partout des chaises vides. À l'instant suivant, la voix du Seigneur retentit, venant d'en haut, à droite du lustre sous lequel je me tenais. Mon serviteur, lorsque cela arrive, ma venue est très, très proche. Alors je vis des groupes venant des pays de l'Est, entrer l'un après l'autre de manière ordonnée. Le frère conducteur de chaque groupe venait me saluer, puis allait avec le reste du groupe dans la salle. Après que le dernier groupe fut entré, je jetai un regard sur la salle. Maintenant, toutes les places étaient occupées. Je fis cette expérience 13 ans avant la chute du mur de Berlin, en 1989, et de l'ouverture des frontières de l'Est. À l'époque, en 1976, personne ne s'imaginait que le bloc des pays de l'Est se dissoudrait, et qu'il y aurait une réunification de l'Allemagne, et de l'Europe. Krefeld. Mon serviteur, rends-toi sur le terrain adjacent, consacre-le-moi, et construis dessus. Le terrain à côté de notre église avait été un camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. Et une clôture de 2 mètres 30 de haut le séparait encore d'avec notre terrain. Je passais par la porte étroite qui mène au centre commercial pour me rendre sur le terrain, je m'agenouillais parmi les buissons et je consacrais ce lieu au Dieu des cieux pour son église ici sur terre. Aujourd'hui, sur ce terrain, se trouvent les bâtiments de la mission, l'imprimerie, le bureau, les pièces pour l'expédition et la piscine pour les baptêmes. Krefeld. Mon serviteur, va trouver RT. Prends les anciens avec toi, et lis-lui la parole que le prophète Ésaïe dit à Ézéchias. Il sera guéri. Ésaïe 38. Frère Rousse, frère Schmitt, et moi, fîmes ce que le Seigneur avait ordonné, et Dieu confirma sa parole par un miracle de guérison. Krefeld. Mon serviteur, va là-bas, prononce la parole, car la femme croyante ne doit pas être ridiculisée devant son mari incroyant. Une chère sœur avait fait 300 km pour venir à la Réunion avec une voiture toute neuve. Toutefois, lorsqu'elle s'apprêta à repartir chez elle, le véhicule ne démarra plus, pas même après que plusieurs professionnels d'entre nos frères, ainsi que le service de dépannage soient intervenus. J'étais en train de traverser la salle de prière lorsque la voix du Seigneur retentit. Personne ne peut s'imaginer quelle certitude, quelle absolue s'ensuit quand une parole provient de la bouche du Seigneur. J'allais au dehors. Quelques frères se trouvaient encore sur les lieux. Je rencontrai la sœur et lui dis, « Va à ta voiture, fais-la démarrer, car c'est ainsi que le Seigneur a dit. » La sœur objecta, « Mais, nous avons déjà tout essayé. » Je l'interrompis, « Ne parle pas, va et fais ce qui t'a été dit au nom du Seigneur. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la voiture démarra au premier contact, et la sœur rentra chez elle avec sa voiture sans autre incident. Le lendemain, le véhicule ne rendit plus aucun signe de démarrage, et dut être remorqué chez un mécanicien. Là ils découvrirent que la pompe à essence était défectueuse, et qu'il fallait la remplacer. Krefeld. Le samedi 18 novembre 1978, vers 10h, le Seigneur me parla dans le bureau du centre missionnaire, « Mon serviteur, sonde les actes des apôtres, et vois. » Si une seule fois un homme a été appelé au ministère avec sa femme. Je pris ma Bible, et lus, dans les actes des apôtres, et je me rendis bientôt compte que même les 7 hommes choisis pour s'occuper des veuves avaient été appelés sans leur femme. Par cette sommation, une prophétie qui avait été prononcée en mai 1976, à savoir que je devais consacrer un couple au ministère, ce que je fis. Pensant que cela était le ainsi dit le Seigneur, fut démasqué par Dieu lui-même comme étant fausse. Krefeld. En décembre 1980, au cours d'un voyage missionnaire en Afrique, à Accra, au Ghana, j'ai été piqué par des moustiques 4 fois en une nuit. Une fois de retour de voyage, le 1er janvier, on m'emmena à l'hôpital, où la malaria fut diagnostiquée, à un stade avancé. 3 jours plus tard, j'entendis les paroles que le médecin-chef, le professeur Dr Becker, adressa à ses collègues, « C'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire à ce stade. Ni médicaments, ni transfusion sanguine. Je pouvais encore entendre, mais j'étais trop faible pour parler. Je sentais que la fin approchait, et mon unique question était, « Seigneur, mon Sauveur, comment suis-je devant toi ?» Et puis je fus enlevé de mon corps. Je fus emporté dans un ciel d'azur et je vis une foule innombrable, habillée en blanc. Ils étaient tous dans la fleur de l'âge. Job, 33, 25. La diversité des couleurs de leurs cheveux était frappante. Toutes les sœurs avaient de longs cheveux lâchés. Nous étions enlevés majestueusement toujours plus haut. Puis je vis quelque chose qui ressemblait à une ligne de séparation horizontale, comme on peut le voir lors d'un lever de soleil au-dessus des nuages. Par l'esprit, je savais que nous allions ensuite rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est pourquoi je regardais vers le haut et je vis la Sainte Cité. Des ondes de bonheur glorieux envahissaient mon corps céleste. Je savais que ceci était l'enlèvement. Ma déception fut grande lorsque je revins dans mon corps terrestre. Krefeld. Mon serviteur, rassemble-moi mon peuple, tous ceux qui ont fait alliance avec moi, par le sacrifice. Je veux leur faire entendre mes paroles. Plus tard, je trouvai 2 passages des Écritures qui expriment la même chose. Deutéronome 4, 10, Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Et le psaume 50, 5 et 6. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Le peuple de Dieu qui est la véritable Église de la Nouvelle Alliance, est rassemblé maintenant pour écouter la parole de Dieu. Nous devons accepter ce que Dieu nous a offert par l'alliance du Nouveau Testament, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Matthieu 26, 28. Celui qui appartient au peuple de Dieu viendra pour écouter les paroles de Dieu. Tous les autres poursuivront leur propre chemin. L'Écriture s'accomplit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 47. Varna, Bulgarie. Le 15 juillet 1999, aux alentours de midi, pendant un voyage missionnaire, j'ai été enlevé, hors de mon corps, dans le paradis. Je vis la plénitude de la lumière, composée des couleurs de l'arc-en-ciel, qui se mouvait harmonieusement. Je savais, par l'esprit, que le trône était plus haut, sur ma droite, car de cet endroit, la lumière jaillissante, apparaissait, plus couleur feu. À gauche, un chœur d'hommes chantait en allemand, les mains élevées, les paroles du psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel est ici maintenant. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Frère Branham a dit 68 fois, l'ange du Seigneur est ici sur l'estrade. C'est à la présence du Seigneur dans la lumière surnaturelle. Tout est grâce. L'appel, le mandat et les expériences qui y sont reliées. Il demeure vrai que le message doit précéder la seconde venue de Christ. Frère Branham l'a dit 17 fois, et rien ne peut annuler ce qui a été fixé avant la fondation du monde dans le plan du salut divin. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. En raison de la prédestination divine, j'ai pu exécuter mon mandat dans le plan du salut jusqu'à ce jour. Fidèle à ce que le Seigneur m'ordonna, le 2 avril 1962, j'organisai déjà des réunions dans 5 pays, et dans 25 villes de l'Europe occidentale, en 1966-67, peu après le départ dans la gloire de Frère Branham. À partir de 1968, je voyageais aussi dans les pays de l'Europe de l'Est, en passant par Moscou, et jusqu'en Oural, et en Sibérie. D'autres pays et d'autres continents suivirent. Je suis allé de ville en ville, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et j'ai annoncé la parole, comme le Seigneur me l'a ordonné, le 2 avril 1962, même au Caire, à Damas, à Alep et à Beyrouth. J'ai enseigné la parole de Dieu, et prêché le message, également au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et même à Pékin, où je fus reçu comme un invité officiel, au début des années 80. Le Seigneur fidèle a accordé sa grâce à chaque voyage, et il a fait abonder ses bénédictions. Je prends très au sérieux son mandat, qui a été confirmé par Frère Branham le 3 décembre 1962, devant plusieurs témoins. Je distribue la nourriture et je prêche la parole de Dieu éternellement valable, partout où l'occasion se présente. Pendant les 55 ans depuis cette extraordinaire expérience du 2 avril 1962, j'ai pu visiter 160 pays, pour certains à plusieurs reprises et dans plus de 650 villes. Les voyages missionnaires mensuels durant toute cette période de temps ont accumulé plus de 10 millions de miles. Je ne reste jamais plus d'un à deux jours au même endroit, et tout au plus le temps de tenir deux ou trois réunions, et ensuite je continue dans la ville suivante, afin d'annoncer ce dernier message de la part de Dieu, jusqu'à ce que les derniers prédestinés soient appelés. Par des émissions TV, les pays que je n'ai pas encore pu visiter moi-même, sont tout de même atteints. Ainsi, la bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, Matthieu 24, 14, et pour appeler les élus à sortir, 2 Corinthiens, 6, 14 à 18, et alors viendra la fin, c'est ce que le Seigneur a dit. Durant toutes ces années, nous avons aussi eu, ici au centre missionnaire, de nombreuses réunions bénies. Même si Satan, en 1979, a essayé de me détruire, et de détruire la confiance dans le mandat divin, ainsi que l'Église et l'œuvre tout entière, par des calomnies et par la diffamation, nous avons poursuivi malgré tout le chemin, avec l'aide de Dieu, comme le Seigneur a déjà dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les vrais croyants ont pris la parole de notre Seigneur à cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Et ils sont restés fidèles. Malheureusement, ceci aussi s'accomplit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Romains 10, 16. J'ai dû comprendre qu'il en est du serviteur comme de son Seigneur. Et aussi d'autres serviteurs de Dieu, comme cela a été le cas en particulier pour Job et sa famille. L'apôtre Jacques écrivit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job 42, 10. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, 11. Tout comme Job, l'Église connaîtra aussi une restauration en double mesure. Ce que le Seigneur déclara pour l'Église demeure vrai pour toujours. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Matthieu 16, 18. Des frères et des sœurs du monde entier sont déjà venus à nos réunions internationales qui ont lieu chaque mois. De plus, maintenant, plus de 1700 petits groupes comme aussi des assemblées entières, suivent par Internet dans plus de 170 pays. Le Dieu Tout-Puissant a pris soin dans tous les domaines, pour les anciens et les diacres, pour la chorale et pour ceux qui jouent les instruments, qui enrichissent ainsi nos cultes. Pour les frères et sœurs qui maîtrisent plusieurs langues, afin que les réunions en direct, et aussi les brochures puissent être traduites en 15 langues. Pour les collaborateurs efficaces dans la technique, dans l'imprimerie et l'expédition. Dès le début, nous avons pu envoyer toutes les brochures, les livres, les CD et les DVD gratuitement dans le monde entier, car Dieu a toujours conduit des frères et sœurs à soutenir cette œuvre missionnaire universelle. Il n'a rien oublié. Qu'il soit remercié pour cela. Nous attendons sous peu l'œuvre finale de Dieu parmi les siens, comme cela est écrit dans Jacques 5, 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur étant le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bienheureux tous ceux qui participent maintenant à ce que Dieu fait dans le présent. Le commencement et la fin de la Réformation. Cette année, la réforme par Luther, remontant à 500 ans, est commémorée aussi bien par les églises évangéliques que par les églises catholiques, dans de nombreuses manifestations en partie écuméniques. Mais en réalité, le retour aux valeurs de ce qui est écrit dans la Bible, à la conversion individuelle à Christ, le Rédempteur, et à la relation personnelle avec Dieu, commença déjà 150 ans auparavant, avec John Wycliffe, en Angleterre, et Janus en Tchéquie. Erasme de Rotterdam, un Hollandais, fut le premier à publier le Nouveau Testament en grec, selon le texte original. La Réformation ne se limita pas à l'Allemagne, mais se propagea dans toute l'Europe. Luther lui procura la percée définitive. Il reconnut l'importance de la Bible, c'est pourquoi il la traduisit pour tout le peuple en allemand. Celui qui lit les divers écrits, peut constater les différentes connaissances des réformateurs, et les thèmes divers au sujet desquels ils se disputaient entre eux, et il comprendra que cela n'était qu'un commencement. Sur cette image, plusieurs personnes qui y jouèrent un rôle au temps de la Réformation, sont représentées. À côté de Janus de Prague, Tchéquie, bien sûr Martin Luther, avec sa femme Catherine de Bore et son ami Philippe Melanchthon, qui œuvrèrent en Allemagne. Et aussi Ulrich Zwingli, un Suisse courageux de Zurich, et Jean Calvin, un Français mais vivant à Genève. C'est impressionnant de voir les hommes et les femmes qui ont participé à la percée de la Réformation. Des réveillons suivis, par Menno Simons, le fondateur des Mennonites, par John Smith, le précurseur des Baptistes, ainsi que par John Wesley, de qui résultèrent les méthodistes. Durant les siècles successifs, les thèmes bibliques et les expériences du salut furent toujours plus incorporés dans la prédication, également par le comte de Zinzendorf au sein de l'église des frères Moraves, ainsi que d'autres prédicateurs de réveil. Cela continua de cette manière jusqu'au début du XXe siècle. Le réveil pentecôtiste qui débuta par l'effusion du Saint-Esprit, le 9 avril 1906 à Los Angeles, Azusa Street, fut la percée vers le christianisme originel, quant au don de l'Esprit, mais pas quant à la pure doctrine des apôtres. La plupart des assemblées pentecôtistes qui s'en suivirent, se sont arrêtées à la confession de la foi trinitaire qui fut énoncée à Nicée, en 325 après Christ, complétée en 381, au concile de Constantinople, et déclarée alors confession de foi apostolique. Il faut le dire très clairement, aucun apôtre n'était présent au dit concile. La confession de foi, biblique, ne se trouve que dans la Bible, et uniquement ce que les apôtres ont enseigné de la part du Sauveur ressuscité, sous la conduite directe du Saint-Esprit, est, apostolique, et valable pour l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à la fin. C'est une tromperie que d'écrire en gros titre « pas d'autre évangile », alors que c'est quand même une interprétation traditionnelle qui est développée. Cela ne sert à rien d'employer le terme « fidèle à la Bible », si ensuite il s'agit d'une confession qui est parue avec l'Église de l'Empire, au IVe siècle, et qui n'a rien en commun avec la Bible. Ainsi, dans Jean 17, le Rédempteur ne parle pas d'une union de plusieurs Églises, mais de l'unité d'esprit des croyants, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement, un. Tous, dans toutes les confessions chrétiennes, devraient réfléchir sérieusement, à propos de ce que l'apôtre Paul a dû écrire de la part de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, 10. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Éphésiens 4, 5 et 6. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel, annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, 8. Tous les réformateurs partageaient à l'unanimité leur opposition au pape en tant que représentant de Christ, ainsi qu'au trafic d'indulgence d'usage à l'époque, au culte à Marie, et à toutes les vénérations des saints, des images et des reliques. Cela incluait aussi le nettoyage des lieux, dans les églises réformées. Les statues, les icônes, et même les orgues furent éliminés. Malheureusement, la doctrine de ces églises et églises libres qui se formèrent, n'est toujours pas en accord avec l'enseignement des apôtres. À proprement parler, chaque communauté chrétienne prêche son propre évangile. Les apôtres ne nous ont pas légué 3 ou 7 sacrements qui sont censés accorder le salut. Ils ont exécuté l'ordre de mission de Matthieu 28, 19. Ils ont prêché l'évangile de la réconciliation avec Dieu, du pardon des péchés, et conformément à Marc 16, 16, ils ont baptisé tous ceux qui ont cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit. En lui seul se trouve le salut de Dieu. Acte 4, 12. La formule trinitaire au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit n'a été employée aucune fois dans la Bible. L'histoire universelle des Églises témoigne que durant les premiers siècles du christianisme, uniquement ceux qui croyaient, étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. La mauvaise interprétation de Matthieu 28, 19, remonte au concile en l'an 381 après Christ. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la fondation de l'Église, la repentance et le pardon des péchés ont été prêchés. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 38. les 3000 premiers nouveaux convertis se firent baptiser. Acte 2, 37 à 41. Ceci est l'unique modèle, valable tout au long des actes des apôtres. Philippe prêcha en Samarie et il est dit de ceux qui ont cru, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Chapitre 8, 14 à 17. Pierre prêcha l'évangile de Jésus-Christ dans la maison de Corneille, le centenier romain, et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Plus loin nous lisons, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Chapitre 10, 43 à 48. Paul prêcha à Éphèse, à ceux qui suivaient les enseignements de Jean-Baptiste. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Chapitre 19, 3 à 6. Ceci est valable jusqu'à la fin dans l'Église de Jésus-Christ. Des centaines d'articles ont été écrits dans le cadre du jubilé de la Réforme, débattant le pour et le contre au sujet de Martin Luther, et du thème « Réformation ». Un titre est formulé « 500 ans de séparation sont suffisants ». Partout ont lieu des cultes de réconciliation. À chaque fois, il est question de « l'unité dans la diversité ». Mais où est, dans tout cela, la réconciliation individuelle avec Dieu par Jésus-Christ le Sauveur ? 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Quand les églises filles retournent dans le sein maternel de l'église de Rome, elles témoignent ainsi qu'elles en font partie spirituellement. Tous ceux qui trouvent grâce devant Dieu retournent à l'église originelle, à l'enseignement des apôtres qui est sorti de Jérusalem. Maintenant, le dernier appel retentit, lequel est adressé à tous les véritables croyants, sans tenir compte de leur affiliation religieuse, et ils l'écouteront. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous, un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17 et 18. Jetons un coup d'œil sur l'ensemble de la chrétienté. Qui a expérimenté une vraie conversion à Christ parmi plus de 2 milliards de personnes? Qui d'entre eux a expérimenté la nouvelle naissance par la parole et par l'esprit, tel que le Seigneur lui-même l'exige? Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Qui a fait les expériences du salut? Telles qu'elles nous sont relatées dans le christianisme primitif. Ce que l'apôtre Jean a écrit est encore valable. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11 et 12. Aucune religion, pas même le christianisme, n'a jamais accordé à quiconque le pardon des péchés, et le salut de Dieu. C'est ainsi que se répartissent les groupes importants du christianisme. Chiffre approximatif. Alliance Baptiste Mondiale 37 millions. Conseil Méthodiste Mondial 39 millions. Fédération Luthérienne Mondiale 72,3 millions. Communion Mondiale d'Églises Réformées 80 millions. Église Anglicane 85 millions. Forum Mondial Pentecôtiste 300 millions. En tout 613,3 millions. En comparaison, Église Orthodoxe 300 millions. Église catholique romaine 1,254,000,000. Il en est de même pour les 300 millions de pentecôtistes et charismatiques qui doivent permettre qu'on leur pose la question. Combien d'entre vous ont expérimenté la repentance, ont imploré pour le pardon de leurs péchés, et ont été baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas plutôt évident que toutes les églises et églises libres annoncent leur propre évangile et construisent leur propre royaume, pas sur Christ, le rocher du salut, mais sur leur propre confession de foi? Ce sont des paroles très sérieuses que le Seigneur a prononcées dans Matthieu 7, 21 et 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Rome. La capitale mondiale. Vendredi 24 mars 2017, le pape François a reçu, au Vatican, les dirigeants des États de l'Union européenne. Le motif spécial de cette rencontre était la commémoration du 60e anniversaire des traités de Rome. Les traités de Rome ont été signés le 25 mars 1957 par les représentants de l'Allemagne fédérale, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Italie, dans le Palais des conservateurs à Rome. Ces traités sont la base de l'Union européenne. Au début de l'année dernière déjà, au cours d'une conférence de presse, le pape promit de faire tout son possible pour que l'Union européenne ait la force et aussi l'inspiration, afin de nous faire avancer. Les 27 chefs d'État ont tous signé en cette occasion une déclaration commune, dans la même salle où furent conclus les traités de Rome en 1957. Un vieux dicton dit, tous les chemins mènent à Rome, mais un seul en fait sortir. Le prophète Daniel a déjà vu les quatre empires. Chapitre 2, 36 à 45. Chapitre 7, 1 à 8. L'empire babylonien, le médo-perse, le grec, et en dernier, l'empire romain qui commença en 63 avant Christ. Lorsque Charlemagne, en l'an 800, fut couronné empereur dans l'église Saint-Pierre à Rome par le pape Léon III, il reprit la succession des empereurs romains. Jusqu'en 1806, la désignation officielle du territoire dominé par l'empereur romain germanique était le Saint-Empire romain germanique. Au moyen d'Internet, on peut très bien s'informer sur tous les domaines où le Vatican est impliqué, et voir aussi ce qui se passe dans le monde entier. Il est principalement question de paix et de sûreté. Par un traité de paix entre Israël et les Palestiniens, sous la médiation directe du Vatican, le but au Moyen-Orient, point brûlant de l'histoire mondiale, sera apparemment atteint. Mais alors se réalise ce que Paul a déjà écrit autrefois par la prophétie, quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, 3. Concernant Israël, tout le monde devrait prendre au sérieux ce que Dieu a dit lui-même à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3. Ceci est valable encore aujourd'hui, comme aussi la promesse, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2, 12. La Judée fait partie du point central d'Israël, et Jérusalem a été la capitale d'Israël depuis l'époque de David. Jérusalem est citée 780 fois dans la Bible. Conformément à son plan, le Seigneur Dieu achèvera premièrement son œuvre de salut avec l'Église des Nations, et ensuite il achèvera son œuvre avec Israël. Romains 11, et autres. Les croyants bibliques devraient prendre garde aux signes du temps et prendre les paroles du Seigneur au sérieux. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. Comme Paul a annoncé tout le conseil de Dieu, Actes 20, 27. Et exposé effectivement chaque sujet et chaque doctrine de manière claire, ainsi en est-il également dans notre temps. William Branham a été l'homme envoyé de Dieu dans notre temps. Il a réellement rétabli les enseignements fondamentaux de l'Église sur le chandelier. La doctrine originelle sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur et tous les autres sujets ont été restaurés et ont été rétablis sur le fondement des apôtres. Nous ne pouvons pas attendre le jugement dernier pour entreprendre une correction. Alors, il sera pour toujours trop tard. Le jugement commence maintenant par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, 17. Maintenant dans le monde entier, par la prédication authentique, tout est restauré et mené à terme dans l'Église de Jésus-Christ. Aussitôt que le dernier message aura atteint son objectif, le Seigneur reviendra en tant qu'époux. Matthieu 25, 1 à 10. Pour prendre avec lui l'Église épouse. Jean 14, 3. Les vierges sages, en tant qu'épouses de l'agneau, entreront dans la salle des noces. Apocalypse 19, 7. Je crois ce que le Seigneur a dit à frère Branham, à savoir que le message de la parole révélée qui lui a été confié, précède la seconde venue de Christ. Maintenant, tout arrive à sa fin, également la prédication authentique de la vraie parole de Dieu. Bienheureux celui qui peut croire Dieu comme le fit Abraham. Genèse 17, 5. Romains 4, 17. Paul put écrire, dans sa dernière lettre à Timothée, C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gale du lion. 2 Timothée 4, 17. Je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a lui-même appelé, envoyé, et encore donné ses instructions. Pour conclure, je le remercie pour le privilège d'avoir pu, jusqu'à ce jour, apporter le pur message de la parole dans le monde entier. À lui soit la gloire pour l'éternité. Nous sommes étroitement unis avec tous les frères et sœurs en Christ du monde entier et nous pensons les uns aux autres dans nos prières. Que le Seigneur Dieu veuille bénir d'une manière particulière les frères qui, sur toute la surface de la terre, distribuent la pure parole, la pure nourriture spirituelle. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude 24 et 25. Nous attendons tous que 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 s'accomplisse. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Agissons de la part de Dieu. Frère Franck. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une profonde reconnaissance que je peux regarder en arrière, à 47 années, depuis que j'ai connu frère Franck. Je peux dire réellement, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. 1 Roi 17, 24. Depuis le début, j'ai pu entendre les prédications de frère Branham traduites en allemand, de la bouche de frère Franck, et lire les lettres circulaires et les brochures qu'il a écrites sur tous les sujets bibliques importants. La parole prophétique pour notre temps a été placée bibliquement, ainsi que tous les événements qui sont reliés au temps de la fin. Cela a contribué considérablement à notre croissance spirituelle. Je peux rendre moi-même témoignage de l'action puissante de l'Esprit de Dieu durant les réunions. Chaque fois, la parole de Dieu nous était fraîchement révélée du trône de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi pu accompagner frère Franck dans quelques-uns de ses voyages missionnaires, en particulier dans les pays de langue portugaise. La semence originale, la parole de Dieu, a été semée. Les mêmes enseignements que les apôtres de notre Seigneur reçurent, ont été proclamés. Nous avons été ramenés à la foi de nos pères, conformément à la promesse faite dans Malachie 4, 5 et 6. La nourriture emmagasinée a été distribuée, selon Matthieu 24, 45 à 47. Je n'ai jamais entendu de la bouche de frère Franck, autre chose sinon, la pure parole de Dieu. Certains se sont arrêtés au ministère extraordinaire de frère Branham, et ils tordent le sens de ces citations difficiles à comprendre pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16, et d'autres s'alignent avec ce que Dieu fait à présent, et met tout à sa place, bibliquement. Nous sommes maintenant à la porte du retour imminent du Seigneur. Puissions-nous déployer tout notre zèle, et remettre à Dieu, dans la prière, l'œuvre de Dieu, et tout particulièrement le porteur de sa parole. Pensez-y, le meilleur est à venir. Unis dans l'amour de Christ. Votre frère Helmut Miskis.